Merci.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Clément Daté. Réalisation Véronique Lamandour. Autour de moi, ce soir, Mathilde Serrel, Christophe Comte et Philippe Azori. En ce jour de Noël, émission un peu spéciale car nous parlerons chacun de nos choix, de notre choix de l'année. Sur nos platines donc, Babelsberg de Gruffrisse, La fête est finie plus épilogue d'Orelsan. Vision Songs volume 1 de Laraji et Different Voices for You, Different Colors for Me de Robert Rantal. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle Scala de Johan Bourgeois. Des places pour samedi 29 décembre à 20h au Théâtre de la Criée à Marseille. Et nous ouvrons cette dispute avec le premier repêché de l'année, drôle dit comme ça, Gruffrisse. On avait déjà parlé dans la dispute du leader du groupe britannique Superfury Animals. C'était en 2014 pour son quatrième album studio, solo plus exactement, et studio aussi d'ailleurs. C'était évidemment déjà Christophe Comte qui avait proposé que nous parlions d'American Interior. Cette fois, c'est Babelsberg, nouvel album, cinquième donc en solo, le premier depuis 10 ans sur le label Rough Trade. Des titres qui ont été composés en 2016, mais qui sont ensuite passés entre les mains du chef d'orchestre Stephen McNeff, enregistrés ensuite avec les 72 musiciens du BBC National Orchestra du Pays de Galles. On écoute, avant de parler de l'album, le morceau « The Club ».
Into the streets where all the guns hang. I committed no crime. They threw me no line. Just threw me out the club. Just threw me out the club. Into the darkest alley. They threw me out the club. They threw me out the club. Into the darkest alley. Proceeded to rip me apart. They threw me to the sea, into the path of a hammerhead shot. I committed no crime. They threw me no lie. Just threw me out the club. Just threw me out the club. Into the darkest alley. To the darkest alley. But don't build a dance floor on top of the dungeon. And don't pick myself up into the blazing sunshine. I pick myself up, I pick myself up into the blazing sunshine. I pick myself up, I pick myself up into the blazing sunshine. I pick myself up, I pick myself up into the blazing sunshine.
Bon, c'est Noël, nous sommes très dissipés. Mathilde Serrel fait du bruit avec son micro, mais ça, on a l'habitude. Et on parle beaucoup, alors qu'on bon, on aurait pu écouter ce morceau, mais on a déjà tous très
merci
bien écouté à la maison.
Merci pour ce buffet, d'ailleurs, Arnaud Laporte.
Non, mais, voilà, on ne se refuse rien à la dispute.
C'est délicieux.
Je vais peut-être dormir.
C'est vrai qu'on n'est pas venu pour rien.
Entre les échanges, entre deux échanges, je me dis petit cœur au rompillon.
Alors, Christophe Comte, oui. Cet amour inconditionnel.
Bah, vous voyez, un amour, une fidélité, hein, parce que vous me rappeliez qu'on avait
parce
parlé.
Parce que vous l'aviez oublié.
Bah, j'avais oublié qu'on en avait parlé. J'avais pas oublié ce disque magnifique. American Interior, effectivement.
Rien à voir avec celui-là.
Rien à voir, qui est un album concept que j'aimais beaucoup autour d'un explorateur gallois. Enfin, une histoire, disons que Gruff Rhys, c'est quand même quelqu'un qui a connu une petite heure de gloire avec les Superfury Animals, mais à mon avis, qui aurait dû connaître la vraie gloire de la Britpop. Malheureusement, comme The Coral, c'est deux groupes qui ont été un peu balayés par la Tornade, Oasis, Blur, et c'est vrai que c'est resté un très bon groupe.
C'est comme la VHS LV 2000.
Voilà,
c'est jamais le meilleur qui gagne.
Les comparaisons. Pas mal.
Minitel et Internet.
Mais il faut quand même se poser la question des Gallois dans cette cartographie de la pop anglaise qui est toujours un peu, enfin, c'est toujours un peu les négligés de la bande. Alors, il y a eu les Manic Street Preachers qui ont un peu pris tout le segment gallois au moment de cette euphorie britannique sur la pop. Et les Superfury Animals sont arrivés un peu derrière et n'ont pas connu donc cette gloire sans doute qu'ils auraient mérité. Et puis Gruff Rhys en solo a pris une tangente qui est vraiment pas celle d'un Noel Gallagher ou d'un Liam Gallagher ou de tous ces gens-là, ou Richard Ashcroft. Lui, il a décidé de repartir un peu à la base, de devenir une sorte de nomade de la musique. Il voyage, il fait des films, il fait des PowerPoint aussi. Il fait ça sur scène. Il est assez marrant.
Ah oui, c'est vrai.
Il organise une sorte de petit show très 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 lo-fi. Le dernier concert qu'il a fait à Paris, il avait des petits écriteaux comme ça où il demandait d'applaudir. C'est un type assez fantasque et en même temps qui a une vision de la musique qui est aussi celle d'un historien, parce qu'il a fait plusieurs compilations, notamment de rock psychédélique gallois des années 60-70. Il documente beaucoup ça, il est très proche de ses racines, et en même temps, c'est un Européen convaincu, puisqu'il avait écrit...
Un remainer convaincu.
Il avait écrit I Love You, EU, à l'époque d'un groupe qui s'appelait Neon, il y a quelques années, et il est, je crois, comme beaucoup d'artistes britanniques, un peu meurtri par ce qui se passe, et notamment par le Brexit, et ce disque a été enregistré, composé au moment où avaient lieu ces questions-là, donc il y a une résurgence de ça dans sa musique, mais pas non plus, c'est pas un disque politique, même si l'artiste qui a conçu la pochette a dessiné dans un coin, je crois que c'est Dieu ou Jésus, je sais pas,
avec c'est Jésus et Donald Trump.
Et Donald Trump qui fait qui fait des photos de Jésus, et lui s'est retrouvé avec cette image. Au départ, ça l'a un peu dérangé d'avoir Donald Trump sur sa pochette, mais il s'est dit finalement,
c'est le dos de la pochette.
Voilà.
Il a dit que Gruff Rhys mettrait volontiers les stickers dessus, pour qu'on voit pas Donald Trump.
Ouais. Qu'on voit pas sa gueule de con, il a dit. Pour en revenir donc à l'album Babelsberg, qui est un disque où Gruff Rhys a voulu se faire plaisir, c'est un amoureux de cette pop orchestrale un peu country, des Jimmy Webb, de Bobby Gentry, de Lee Hazlewood, ces gens-là. Et donc, on a pu l'entendre avec cet extrait. Il a eu cette opportunité de faire travailler un orchestre de 72 musiciens. J'imagine qu'il a dû avoir des prix parce que c'est pas quelqu'un qui a un budget énorme. Mais il se trouve que cet album est très cossu. Quand on l'écoute, il en jette parce qu'il a des arrangements.
Un joli mot, un album cossu.
Bah oui, parce qu'il aurait pu, ça aurait pu être un
album. Un album clic-clac.
Voilà, c'est un album avec des moyens, en tout cas apparents, et qui, ces moyens-là ne nuisent pas au songwriting de Gruff Rhys, qui reste quand même pour moi un très très grand auteur-compositeur britannique. Je trouve que ce disque, on peut le comparer au premier album de Last Shadow Puppets, par exemple, et moi au deuxième, que je trouvais un peu décevant. Et je trouve qu'il challenge comme ça, ce si je peux employer cet anglicisme horrible, ce style d'écriture qu'avaient ces gens-là, ceux que j'ai cités, les Jimmy Webb, etc. Mm-hmm. Et je trouve qu'on est vraiment dans ce registre-là, avec des imperfections, mais avec une volonté, je trouve, qui est assez affirmée et assez aboutie.
Mathilde Serrel, votre sentiment sur ce disque de Gruff Rhys?
Alors, moi, j'ai du mal, en fait, avec l'idée de l'historien de la musique, je l'entends, mais j'ai pas de plaisir à écouter. C'est-à-dire que j'ai un plaisir à écouter la démarche, à écouter la proposition, l'intellect, l'intelligence, mais moi, je suis pas touchée, en fait, parce qu'il sort de ma platine. Si je l'écoute,
vous faites rire toute seule, hein.
Cossu dans mon salon. Moi, j'ai pris le. Je suis une fan de Damon Albarn, donc j'ai pris le virage.
Sortez d'ici.
Absolu de Blur à ce moment-là, et puis d'Oasis. Et j'avoue que autant j'aime énormément Lee Hazelwood, j'aime d'autres chansons folk, j'aime l'idée de cette pop galloise, bien sûr, mais alors vraiment ça me passe complètement au-dessus de la tête. Ouais.
Philippe Azoury.
Ou des oreilles.
Des oreilles. Merci. Je crois que je comprends pourquoi. Enfin, non, je ne sais pas si je comprends pourquoi ça n'a pas marché déjà sur moi au moment de Super Furry Animals. Et pourquoi ça marche par intermittence sur cet album-là. Je savais pas du tout la carrière solo. J'écoutais Christophe avec beaucoup d'intérêt parce que notamment les compilations, ça m'intrigue beaucoup. Je crois que j'ai un tout petit problème avec sa voix, c'est-à-dire que à la fois la trop grande proximité avec Leonard Cohen. Avec de l'humour, ce qui est quand même plutôt bien. Mais encore que Leonard Cohen n'en manque pas. Mais il y a beaucoup. Il y a de l'humour chez Cohen, mais il y en a encore plus chez Gruff Rhys. Enfin, il y a un second degré dans les clips, notamment. C'est assez extraordinaire. Avec un côté pulp aussi, le pulp des débuts, le pulp de My Legendary Girlfriends, mais ou le Divine Comedy. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut quand même à ce niveau-là d'écriture, qui est quand même effectivement de l'orfèvrerie, une voix qui apporte un tout petit peu plus. Et j'ai l'impression que sur la voix, voilà, c'est assez rare les moments où il arrive à me toucher beaucoup. Ça a lieu sur un morceau qui s'appelait Take That Call ou Take That Call, je sais plus. Voilà. Pour le reste, j'ai un peu tendance à ramer parce que régulièrement, dès qu'il se met à chanter, ça casse le rapport que je pourrais avoir avec le disque. Lequel est, à l'inverse de Christophe, je trouve, je suis plutôt en admiration devant l'orchestration. L'écriture, je viens un peu après. La voix, je rame.
pour la synthèse. Bon, c'est le choix de Christophe Comte. Alors, je peux dire que moi aussi, autant American Interior, absolument resté collé sur ma platine dans mon salon très cossu. Je fais une compétition avec Mathilde Serrel. Autant là, moi, je suis moins friand. Alors, puis comme me le faisait remarquer Clément Daté, dans mon casque, qui est à la console pour cette émission, c'est pas la peine de prendre un orchestre symphonique pour avoir un son aussi pourri.
Attendez, les experts en hi-fi, là, c'est pas la question du son qui est
non, mais
pourri.
C'est quand même une grosse bassine, quoi. J'ai pas le plaisir du détail orchestral, en fait. Je pense que c'est absolument voulu, non? Par Gruff Rhys, vous croyez pas, Christophe?
Je pense que c'est un peu compliqué quand on a géré un orchestre. C'est pas,
avec un chef.
Oui, mais je pense pas que ça a été fait dans les conditions dans lesquelles étaient faits les 10 des années 60 où les mecs arrivaient.
Bien sûr.
C'était symphonique un peu low cost.
Je voulais juste mentionner Glenn Campbell parce que je me disais, voilà, quelqu'un qui a disparu cette année, sans les hommages qu'il aurait mérité. Et effectivement, quand Philippe parle de voix, alors Glenn Campbell, c'est difficile d'aller aussi, d'être autant dans la perfection que Glenn Campbell. Et c'est vrai que le mixage, le son de ces disques-là, avait une magie, mais qui appartenait aux studios de l'époque, aux ingénieurs du son de l'époque. Aujourd'hui, on essaye de faire à peu près ça. Alors, j'entends ce que vous dites, mais moi, ça m'a pas plus dérangé que
Après, il y a une efficacité mélodique à laquelle je suis sensible. Il y a une écriture.
Je trouve qu'effectivement,
chez Glenn Campbell, dans Wichita Lina, quand arrivent les basses, on sent que les instruments arrivent les uns après les autres, merveilleusement disposés. Là, effectivement, c'est un peu la piscine. Tout le monde s'entend en même temps. C'est un peu la piscine à 15
ans. Mais bon, moi, ça me va.
Ça vous va. C'était votre choix, de toute façon, Christophe Comte, donc on a eu plaisir.
Et je trouve en plus que c'est un disque qui est passé totalement inaperçu au moment où il est sorti, début juin, je crois. parce que sans doute les gens avaient la tête ailleurs, à la Coupe du Monde sans doute. Mais je,
alors, qu'en tout cas... alors que Noël, ça y est maintenant, c'est passé, le réveillon est là.
Et je trouve que voilà, il méritait une deuxième chance, au-delà du fait que c'est le disque que j'ai le plus écouté cette année, mais je trouve qu'il méritait vraiment une deuxième...
Je pense que c'est en revanche un très bon disque de Noël. Cossu, chalet, tout ça, une petite atmosphère qui à mon avis correspond très bien.
Moquez-vous parce que ça va être votre choix après Mathilde. Bon, là on parlait de Babelsberg de Gruffrys chez Rough Trade.
France Culture. La dispute.
Pour suivre cette dispute spéciale consacrée à nos choix d'albums pour 2018, un cas à part, Mathilde Serrel, vous avez proposé Orelsan et l'album La Fête est finie. Or, il n'aura échappé à personne que l'album est sorti en 2017. Nous avons parlé ici le 7 novembre 2017.
Mais
alors, ce choix
un supplément
2018
de l'album
est lié au fait que le disque vient de ressortir en version augmentée, double CD donc. Le CD sorti en 2017, plus un autre épilogue qui contient 11 plages. La question des disques augmentés sera d'ailleurs, comme la programmation est remarquable dans cette émission, au cœur du petit salon de mardi prochain. Petit salon qui sera tenu ce jour-là par Boris Pinault. Soyez à l'écoute. Avant de parler de l'album d'Orelsan augmenté, écoutons Mes grands-parents.
Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier McFlurry d'un, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. À l'âge où j'ai eu mon premier scooter, mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin, et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mon grand-père a creusé sa cave à la main, il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « fais pas le malin », et il a des doigts, c'est des bites. À force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques, mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent. Genre rien n'est illégal si personne n'est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants. Et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles il y a plein d'objets inutiles fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au corner gagnant. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants c'était ses bras. Mes grands-parents croient en l'évangile, leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille. Mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile. Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomile. Mon grand-père a plus de filtre, il raconte les putes à l'armée. Ma grand-mère lui rappelle qu'à l'époque ils étaient déjà mariés. Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer. On fera passer les histoires, laissera pas la mémoire s'effacer.
J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers.
Mathilde Serrel, c'est pas vous qu'on a entendu la fin de La plage, mes grands-parents.
C'est Colette Manie qu'on a entendu.
La Nina Simone française.
La Nina Simone française.
Si vous voulez dire des choses intéressantes, Philippe Azoré, rapprochez-vous de votre micro.
Mais le coton.
Je peux faire n'importe quoi ici. Ouais, voilà.
Mais le coton.
Arrêtez avec la bûche.
Chanson bah, merveilleuse aussi à écouter à Noël. Colette Manie, Prends ma main, tout ça. C'est la chanson, donc, des, à mon avis, qu'écoutaient les grands-parents d'Orelsan. La version augmentée donc, de La fête est finie, épilogue. C'est à la fois quelque chose qui se fait un petit peu dans l'urgence et, à mon avis, avec une. Aussi une commande, puisqu'il le raconte à l'intérieur même de cet épilogue, qu'il est en train de le finir dans la chambre d'hôtel, les derniers titres, au dernier moment avant de livrer.
Mais vous donc, y croyez-vous ?
Et parce que je pense qu'en effet, il a dû dire qu'il avait quelques deux trois trucs de côté en plus, et puis tout d'un coup, c'est devenu cet album augmenté quand même assez robuste.
Enfin, un remix
pour un album augmenté avec un nouveau featuring entre autres, enfin deux nouveaux featuring
Damso.
Avec Damso et aussi avec UBN. Qui est un rappeur anglais. Il y a moi, je trouve les thématiques qu'il y avait déjà dans La Fête est finie, mais on voit que finalement, ce sont des dominantes d'écriture et que c'est le style d'Orelsan qui s'affine. Moi, avec un petit peu de provocation, je le compare à La Rochefoucauld. Je trouve qu'il a un côté moraliste du 21e. C'est-à-dire, c'est vraiment l'homme des maximes, quoi. Et d'ailleurs, il le dit dès le début de Fantôme et aussi dans Épilogue. Il est là pour faire des formules, il est là pour trouver les mots, il est là pour saisir, faire cette espèce de précipité de réel.
Simple, basique, je dirais.
Simple, basique, avec une volonté, comme d'ailleurs les moralistes du 17e, de décrasser un petit peu l'hypocrisie ambiante. Et tout s'écrit de cette manière-là. Là où, évidemment, il maîtrise le mieux pour moi, c'est dans Mes grands-parents, parce que c'est un antidote à un autre titre qui est sur Épilogue, qui est La famille, la famille. Alors, on a l'impression qu'on
sur
a...
Sur La fête est finie.
Et, non, non, alors...
Sur, ah sur, oui, sur ouais, l'épilogue, pardon.
Oui, parce que sur oui. La fête est finie, il y avait oui. un portrait déjà de fête de famille, puisque c'est Noël, avec déjà les oncles et les tantes qui n'allaient pas très bien.
Le tripoteur,
la sœur qui est plutôt très malheureuse et il y avait cette angoisse de cette réunion de famille, de cette violence que toutes les cellules familiales, quelle que soit leur taille et leur typologie, ont. Voilà, famille, je vois, André Gide l'a déjà dit et c'était déjà chez Orelsan. Ensuite, je trouve qu'il y a une sorte de réconciliation dans la famille épilogue qui est donc dans cet album augmenté où là on a l'impression qu'il prend son verre, qu'il va porter un toast et puis qu'on est heureux ensemble finalement.
Quand même.
Et c'est un moment un petit peu raté, on va dire, sur Épilogue, aussi qu'on a perdu Orelsan. Non, je veux dire, c'est pas mal, c'est gentil, mais ça ressemble à une grosse réunion comme ça de variétoches où on se tiendrait la main. Et soudain, il y a le versant qui est Mes grands-parents. Et là, il y a tout ce récit de la société. Je trouve qu'il a aussi, il a une plume comme ça assez balzacienne au fond, parce qu'il sait dire l'époque, mais avec très très peu, on va dire, d'objectivité. C'est par la subjectivité des personnages qu'on y parvient. Et puis, il y a donc toutes ces horreurs que peuvent proférer les grands-parents, cette espèce de les confusions innommables. Mais on est presque gêné à l'écouter. Et en même temps, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Et c'est en plus une tendance au moment de tous les rappeurs d'aller rendre hommage à leurs grands-parents. Orelsan l'avait déjà fait, puisque sa grand-mère était partout. L'homme pâle le fait avec Janine. Et il y en a d'autres. Donc moi, voilà, je trouve que cet hommage acide et bienveillant à ces personnages sociaux et ces types sociaux que sont ses grands-parents en même temps des types intimes, est particulièrement réussi, mais c'est pas la seule chose qui est réussie sur cet épilogue.
Bon, La Rochefoucauld, Balzac, vous avez atteint votre quota, Mathilde Serrel. Je passe la parole à Philippe Azoury.
Moi, je vous ai une perversité inouïe que Mathilde ait choisi le soir de Noël. Un album qui s'appelle La Fête est finie.
Épilogue.
Épilogue.
Voilà, on y est. Quel à propos.
Merci. Non, il y a encore une semaine. Qu'est-ce que vous du jour de l'an, Mathilde? Rien.
Ah, mais si, bien sûr, évidemment. Bon. Mais vous savez que c'est le solstice. Hein. Dans toutes les sociétés, on célèbre quelque chose à ce moment-là. On se débrouillera.
Après, ce qu'on a écouté, c'est magnifique. Enfin, non, il faut quand même avouer, quoi. Connaître Manie, la Nina Simone française. Non, ça m'a fait penser, il y a quelques jours, un site qui est spécialisé en musique urbaine, qui s'appelle Yard, qui est plutôt très bien, moi, que je consulte pour être, puis ils sont très très rapides sur tout ce qui est rap, etc. A lancé un post Instagram et Facebook pour dire un peu quelle est, c'est une question lancée à leur fidèle lectorat. Pour savoir quels sont les rappeurs, parce que le rap a presque 40 ans aujourd'hui, quels sont les rappeurs préférés de leurs parents, de leurs darons, pour dire exactement. Oui, je cite.
Tant qu'à faire.
C'est quoi les rappeurs préférés de vos darons? Et il y a eu énormément de réponses, j'ai pas tout lu, j'ai à la 276e, je me suis arrêté, mais c'était quand même systématiquement, en dehors de MC Solar et disons NTM qui ressortait, l'essentiel des réponses, c'était Brel Brassens. En disant, et tous les jeunes gens, enfin j'imagine jeunes gens qui répondent à ça sur Yard, disent de toute façon on peut pas rivaliser, quoi. C'est Brel Brassens, c'est eux les premiers rappeurs. Et ça convient assez bien, enfin je vois à la position qui est en train aujourd'hui d'avoir Orelsan, mais aussi Nekfeu, aussi Stromae d'une certaine manière. Enfin je ne sais même plus si on est dans la galaxie rap au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire plus proche aujourd'hui du trap, de PNL, d'un certain danger, on va dire. Là, on est dans l'écriture. Avec une jouissance d'écriture et un talent d'écriture vraiment indéniable. Enfin, je trouve il a mûri. Enfin, tout l'album déjà, il y a en 2017 était là-dessus. Enfin, sur le fait qu'il a, il frise.
Il a 35 ans.
Ouais, 38, même 38.
30, je me demande. Depuis le temps.
Bon. Il frise, mais pas que capillairement parlant. Donc la quarantaine et que malgré tout, enfin voilà, des sales putes, il le refera plus. Enfin voilà, on sent bien que le type a mûri, ce qui ne le rend pas plus tendre. Et je me souviens au tout début de l'album, il disait dans Son, ça, je regrette mes vieux démons. C'est quelque chose de bien. Comment arriver à être encore mordant accrochait un peu, tout en arrivant à avoir une écriture qui effectivement aujourd'hui dialogue plus avec les très très grands, disons, auteurs, compositeurs, interprètes de la variété française.
Christophe Comte, enfin, sur Aurel San.
J'ai dit il y a quelques semaines tout le bien que je pensais d'Aurel San pour l'avoir vu sur scène plusieurs fois. Et
trois fois.
Et surtout pour, après l'épilogue, la suite de l'album, moi je suis pas très très fan de ces appendices, parce qu'on sait très bien que c'est une manière de remettre le disque en avant, de faire beaucoup plus de streams, etc. Et puis la chanson de pardon un peu sur la famille après les avoir défouraillés tous en ligne.
Mais heureusement il y a mes grands-parents.
Finalement ils sont pas si. Je trouve qu'il y a il y a un talent de stand-upper maintenant, je trouve, chez Aurel San, qui dépasse un peu le musicien, c'est-à-dire que musicalement c'est quand même assez faible. On trouve derrière des musiques au kilomètre, comme on a entendu là, du jazz, sais pas, on a l'impression d'être dans un bar d'hôtel. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de recherche musicale, qu'on est chez quelqu'un qui se fait vraiment plaisir avec les mots et qui a eu une résonance tellement forte du public, alors de tous les publics pour le coup. Vous allez voir un concert d'Aurel San, c'est vraiment la fête de famille, parce que là il y a tout le monde, les parents, les grands-parents, les grands-parents, et je pense que cette image consensuelle l'ennuie un peu, alors il essaye de la tirailler, comme dans le titre qu'on vient d'entendre. En même temps, est-ce que sa famille est si ignoble qui veut bien la décrire? Je ne pense pas. Je pense que c'est une manière aussi de pointer, d'une certaine manière, toutes ces caractéristiques un peu repoussantes de la France, dans tout ce qu'elle a de plus gauloise. Et je trouve qu'en même temps, c'est à par moments un peu caricatural aussi. Il y a toujours l'oncle raciste, le machin. Enfin, on n'est pas très très loin quand même d'une caricature. Mais malgré tout, c'est vrai que le talent de récitant d'Aurel San, de sa voix parlée dans la vie, je la trouve assez insupportable. Je trouve qu'il joue un peu le gogol, mais quand il chante,
c'est pas Esteban.
Enfin, quand il est,
Esteban de Neve Newbita.
Voilà, mais c'est un peu ça.
C'est pas loin.
Très proche d'Homer Simpson.
C'est vrai que tous les deux ensemble, je pense qu'ils pourraient faire un concours de bétification. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il y a des qualités évidemment. On s'y retrouve. Mais je trouve que quand même pour l'album de l'année, Mathilde peut prendre l'album de l'année dernière et son appendice, c'est un peu, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé entre novembre 2017 et
le l'incendie de Grasse quand même. Je vous laisse mon temps de parole.
Non, mais je dis juste un mot. Non, je sais que c'était un peu audacieux, puis on a déjà assez parlé.
Un peu facile.
Un
peu cossu.
À la fois facile et audacieux.
Cossu
et inconfortable. Non, et c'est parce que je trouve qu'il s'est passé quelque chose avec Aurel San cette année. Je trouve que voilà, ça s'est affiné et ça s'est définitivement passé de l'autre côté, c'est-à-dire chez un styliste et effectivement une écriture dont on ne sait pas si elle est chez les moralistes, comme je le disais, les auteurs de Maxime du 17e, ou si elle est chez les stand-uppers. Mais c'est vrai.
C'est affiné 12 mois, quoi, le temps de
sortir l'album. Je pense qu'il s'est passé quelque chose avec cette stylistique, en tout cas cette année. C'était ça que je voulais célébrer.
D'accord, pour dire quand même que dans l'épilogue, la musique au maître, elle peut être efficace. Hein.
Non, mais sur 10 mois, cette version un peu raille et rappée, moi j'ai bien aimé.
Des trucs un peu dubstep, des trucs. Bon, c'est quand même. C'est pas une inventivité.
Musicalement derrière, c'est
voilà. Musicalement, mais.
Grinch fait plus d'efforts, quand même. Un peu plus d'efforts. Pour parler de gens de ça.
C'était le
famille.
Choix de Mathilde Serrel. La fête est finie, plus épilogue d'Aurel San chez Wagram, 3e bureau.
La dispute, France Culture. La porte.
Le troisième album de l'année, selon nous quatre en tout cas. Et autre entorse, puisqu'il s'agit d'une réédition, comme va nous l'expliquer Philippe Azoury. Il s'agit de Vision Sounds, volume 1 de Laradji, sorti en 84 sur cassette, à compte d'auteur. Donc, c'est vrai que cette réédition, c'est quand même quasiment une découverte, parce que, alors que quand même cette musique dite New Age, longtemps méprisée, conspuée, huée, lapidée, retrouve quand même voix au chapitre. On va en parler, mais avant tout cela, on va écouter un des morceaux de Vision Sounds sur les mains, c'est Cosmic Joe.
Called him Cosmic Joe. One Once upon a time there was a journey to a mystical place called Holy Mole. On that path there was someone they often called Cosmic Joe. Not too long ago, there was a place called Holy Mole. And off to find this mystical place was an adventurer they called Cosmic Joe. One day they locked embrace and suddenly they were united, wanted more and all in one. Once upon a time, not too long ago, there was a place called Holy Mole. What to find this mystical place, there was a man, they call him Cosmic Joe. Once upon a time, there was a journey to a mystical place called Holy Mole. On that path there was someone they often called Cosmic Joe. Once upon a time, not too long ago, there was a place called Holy Mole. And off to find this mystical place was an adventurer they called Cosmic Joe. One day they longed to embrace and suddenly they were united, one and all.
Nous sommes entrés dans le volet plus obscur de cette dispute de Noël.
Joie,
ça va continuer après.
Contemplation,
la relaxation. Laradji, c'est pas son vrai nom, hein, mais bon.
On savait quoi. Non, effectivement, c'est pas du tout son vrai nom. Non, on discutait hors antenne, parce qu'on est très bavard, on fait que manger, tout ça. C'est pas bien. Mais bon, on était tous très très embêtés au moment quand même de trouver qu'il y avait assez peu de consensus cette année à trouver un album. Moi, ça fait longtemps.
À part Grafris, bien sûr.
À part, évidemment. Vous avez tous entendu. Moi, ça fait à peu près très longtemps, évidemment, quand on écoute beaucoup de musique plutôt électronique, ça, que le format album n'est plus du tout approprié au classement de fin d'année. D'ailleurs, dans Gradient, on fait maintenant des morceaux. En partie parce que, après, c'est aussi lié au mode de production, au mode de diffusion de la musique. il est clair que l'écriture d'un album est devenue une tâche aussi ardu qu'impossible pour n'importe qui. Et si ça avait été le morceau, si vous m'aviez demandé Arnaud Laporte, le morceau 2018, pour moi c'était plié dès fin janvier 2018, c'est God's Plan de Drake. parce que je trouve que là on touche à quelque chose dont même, je pense, le rap aura du mal à se remettre. Le problème, c'est que Drake lui-même a du mal à se remettre de ça, parce que Scorpio qui a suivi, qui est un album beaucoup trop de morceaux, est un album relativement quand même assez faible comparé au voilà ce petit chef-d'œuvre de 3-4 minutes.
Et le temps s'amenuise pour la Raji.
Alors la Raji, justement.
L'histoire de sa vie.
Alors justement la Raji.
Pas duré, quoi.
Mais non, il a failli.
Il a failli, mais non, il aime bien prendre son temps. Non, la Raji, c'est, moi j'ai acheté ça, je l'ai vu chez Gibert, une sorte de pochette, mais complètement improbable, d'un type dans les nuages, habillé en J-Lab, avec un espèce de truc sur la tête, dans un capuchon. On se demande où ça sort, dans des tons bleus, aquarelles.
C'est Morikanté ou...
Entre Morikanté et, le chef de secte, Shrinin Moy. Enfin, vous voyez, c'est un truc comme ça. Je me dis, tiens, c'est pour moi. Mais les musiques de secte, j'ai toujours aimé ça. Je sais pas pourquoi. J'ai zéro mystique, mais ça. Et je mets ça dans la platine. Et là, la surprise absolue, le type est en black, comme ça. J'entends un sorte de croisement.
Il y a des photos de pochettes magnifiques.
Des photos de pochettes incroyables.
Avec Kermit la grenouille.
Voilà. J'entends.
Xylophone à bois.
J'entends la voix de Bob Mould, de Husker Du, qui est une des plus belles voix pour moi, qui était une belle voix du hardcore américain, sur ce que seraient des accords de Arthur Russell. Avec effectivement derrière une sorte d'un effet d'émotion et d'étranglement, enfin qui est assez rare. Je ne savais pas du tout qui c'était là-dessus. Moi, j'ai demandé à mon collègue et ami Joseph Gons. Il m'a dit mais la Raji, évidemment. Il y a que toi qui connais pas. Je l'aurais tué. Non, en fait, personne ne connaît. Mais effectivement, la Raji a chez les gens qui sont un peu branchés sur le rayon relaxation de la Fnac ou la spiritualité ou des choses comme
la
Raji a quand même une histoire, parce que la Raji, ce qu'on entend donc date a été enregistré au début des années 80. Mais la Raji en fait jouait dans des parcs à New York, puisqu'il vivait à New York en 79, lorsque Brian Eno est tombé mais complètement en arrêt devant ce type qui joue sur un sitar électrifié.
C'est pour ça que je dans cette tenue.
Voilà.
À cause de Brian Eno.
Et que Eno lui a immédiatement proposé de faire l'Ambiance 3, qui était le seul volume des quatre ambiantes que je n'avais pas. Et peu à peu, la Raji a rejoint la galaxie Eno, Brian Eno, son frère Roger Eno. Il a fait énormément de disques qui sont effectivement des disques de New Age auxquels j'ai un peu moins d'empathie. Et il a fait ses vidéos au milieu des années 80. On en trouve certaines sur YouTube, ça vaut le coup. Ça dure 30-40 minutes. Ça s'appelle Celestrana. Et avec ce ton bleuté un peu bizarre. Et c'est pour ça que vous disiez, Arnaud, alors on sait pas quand ça commence, on sait pas vraiment comment ça finit dans le disque, parce qu'en fait, c'est des morceaux qu'il improvisait vaguement dans une sorte d'incantation pendant Celestrana, et dont ensuite ils ont fait avec Numéro, ils sont allés dépêcher. Donc effectivement, c'est un album de 2018, parce que ça n'avait jamais été monté comme ça. C'était même pas des cassettes, c'est des VHS, enfin voilà, qu'on filait dans les centres Hare Krishna de New York. Voilà, j'écoute ce truc depuis le mois de mars, quasiment du matin au soir, je pleure. Et finalement, à part Drake, il y a rien qui m'a fait pleurer cette année mieux que la Raji.
Christophe Comte.
Alors moi, je connaissais la Raji. J'ai acheté l'année dernière.
Encore un meurtre.
J'ai acheté la réédition vinyle de son album avec Brian Eno, le Ambient 4.
Non, 3.
Et en plus, alors cette année, ça a été vraiment la résurrection de la Raji, puisqu'il était en featuring sur l'album de Jonathan Wilson, Rare Bird, sur lequel il fait une voix. Et il y a un clip où on le voit dans une télé. Le clip est assez kitsch, assez drôle. Et Jonathan Wilson, à cette occasion-là, a dit tout le bien qu'il pensait du génie de la Raji, qu'on a découvert à plusieurs. Il y a plusieurs fragments cette année. Il y en a eu plein. Il y a un autre album.
Il y a deux compilations.
Il y a des remixes qui sont assez formidables. Ouais. Il y a cette compilation chez Numéro Group. Et il y a un album, si j'ai bien compris, tiré d'un live de 8 heures qui a été transformé en album de 30 minutes avec un groupe qui doit s'appeler Dallas Acid, je crois. Et un troisième type. Et c'est assez fabuleux aussi. Alors là, pour le coup, je l'ai découvert grâce à un site de streaming quand j'ai écouté cette compilation que j'avais pas. J'ai découvert qu'il y avait ça qui était sorti cette année. Donc il y a une profusion de sorties de la Raji.
C'est l'année la Raji.
Après, évidemment, cette partie-là chantée est un peu différente de ce qu'on pouvait connaître de lui, qui était plus, beaucoup plus méditatif, beaucoup plus New Age. Alors, c'est un nom tellement horrible qu'on a du mal quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre un peu la musique chez Nature et Découverte et puis les albums ambiants de Brian Eno, ce qui est un peu peu fâcheux et qui en dit long quand même sur les capacités des gens et surtout de concentration, quoi. Parce que il faut quand même un peu de concentration. Mmh. Il faut un salon cossu, hein, aussi. Il faut écouter yoga, cette musique. Enfin, voilà, se laisser comme ça envahir par la musique de la Raji qui est à la fois assez hypnotique et en même temps qui possède une, enfin, comme tous ces, il y a eu ce coffret là de Eliane Radic qui est sorti il y a pas très longtemps, où on entend comme ça des plages de 25 minutes où il se passe des choses, mais des choses qui arrivent tellement lentement qu'on peut perdre, évidemment, à l'heure où on zappe comme des cinglés sur des plateformes de streaming, on peut perdre totalement la notion de ce que peut être la durée, le temps, l'écoute dans la musique. Et cette compilation et d'autres œuvres de la Raji permettent de retourner à cette source-là, cette concentration, cet appel à la méditation, peut-être.
Mathilde Sérène.
Alors, moi, je ne connaissais pas la Raji, donc je remercie Philippe Azzouri de me l'avoir fait découvrir.
C'est Mathilde, enfin.
Ah non, mais moi, j'ai une révélation absolue. Ça doit être fait pour ça. Oui. C'est pour ça qu'au rayon méditation ou chez Nature et Découverte, j'aimais énormément, moi, tous les disques d'ambiance de Brian Eno. Je crois beaucoup aussi à cette partie un petit peu curative aussi d'une certaine forme de musique. Et je trouve que là, salon cossu ou pas, il y a un véritable cosmos, en fait, qui se crée autour de vous. Il y a une forme également aquatique. Je trouve que ça va, que vous soyez dans une écoute fixe ou une écoute mobile, il y a un accompagnement comme ça qui est absolument extraordinaire. C'est aussi une musique qui est particulièrement, ça fait penser à un groupe très éphémère qui avait été lancé par l'ancien directeur du Palais de Tokyo, Jérôme Sans, qui s'appelait Liquid Architecture. Il y a quelque chose de l'architecture liquide, en fait, chez la Raji, et moi ça m'a bouleversé. Comme Brian Eno et comme aussi certains essais de Damon Albarn dont on parlait tout à l'heure. Moi, c'est cette voix-là qui m'a...
Ah, pas plus que Bob Mould.
C'est
des voix de blanc, c'est ça qui est très étonnant.
Exactement, et des voix un peu de prince charmant.
De prince charmant.
Vraiment de prince charmant.
La voix sauve.
C'est un baiser pour les oreilles. Mmh. C'est absolument magnifique, donc je le conseille à évidemment tout état de stress, mais aussi pour une sorte d'optimisation orgasmique.
Bon, bah écoutez,
localement, on n'est pas loin d'Arthur Russell. Hein,
on n'est pas loin.
C'est ce que Lame, Olivier Lame, qui vient souvent ici, avait pointé dans Libé. Moi, juste pour conclure, mais ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie. Je pense peut-être une fois ou deux à la découverte de Nick Cave, mais j'ai vraiment eu l'envie pendant au moins un mois de vendre tout ce que j'avais, ne garder que ça. Mais vraiment, enfin, ça m'arrive pas souvent. Je pourrais me débarrasser de tout, je garde ça, et puis voilà, quoi, c'est réglé.
Comme une ascension de temple, en fait, bouddhiste, où étage par étage, en fait, on finit par se séparer du matérialisme.
Oui, j'ai tout la délestation.
Bon, mais je plus sois. Moi, j'ai vous dire une expérience toute personnelle. Chaque morceau que j'écoutais, et je ne connaissais pas non plus la Raji, j'ai l'impression de l'avoir écouté depuis 50 ans.
Celle de 79.
Non mais si j'avais toujours entendu ces chansons.
Amniotique.
Voilà. Ou peut-être c'était dans une vie antérieure.
Allez, sûrement.
Ça doit être quelque chose comme ça. Bon,
ça devient très mystique.
Vous avez compris. Ça s'appelle pas Vision Songs pour rien. C'est le volume 1. On a eu beaucoup de visions.
Ils nous ont tous quittés.
Ouh là là. On parlait de la Raji.
La messe de Noël tout de suite.
Beaucoup d'actualités 2018 à aller chercher. Là, c'était cet album chez Numéro Groupe.
La dispute. France Culture.
Alors, le dernier des choix des rattrapages 2018, le mien, c'est encore une légère entorse. C'est vrai, Christophe Comte, vous nous le faisiez remarquer. On n'a pas choisi forcément des disques de 2018. Moi, c'est un disque de démo.
Il y a plus de temps.
De démo réalisé en 1980. Bon, c'était hier. Mais elles étaient quand même inédites. Sauf, il y a 7 plages, il y a 5 morceaux tout à fait inédits. Il y avait d'autres, j'en parlerai. L'album s'appelle Different Voices for You, Different Colors for Me. De Robert Rental, c'est chez Optimo Music. Robert Rental, alors c'est plus les Pays de Galles, c'est l'Écosse cette fois. Il est né en 1952, il s'est installé dans le sud de l'Angleterre avec son camarade Thomas Lear dans les années 70. Eux aussi aimaient beaucoup Brian Eno, il écoutait beaucoup, et aussi la musique électro-allemande. Il prend part, donc, Rental, à la naissance de cette scène électronique anglaise de la fin des années 70. Il y avait Daniel Miller, il y avait Flaming Gristle, il y avait Cabaret Voltaire, il y avait Human League, et quelques autres. Robert Rental, il a sorti un premier single en 78, donc on dit qu'il a été enregistré chez lui sur un 4-pistes loué, où il jouait du stylophone. Ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est bien un gadget pour enfants, visiblement. Mmh. Et puis de la guitare. Et puis après, il fera une tournée qui est fameuse pour celles et ceux qui ont assisté avec Daniel Miller hiver 79. Il faisait la première partie de Stiff Little Fingers. Donc les gens qui venaient voir Stiff Little Fingers, ils se demandaient ce que faisaient ces deux personnes avant qui s'appelaient sur scène c'est Robert Randall and the Normal. Ouais, puisque Daniel Miller avait pas le goût du vedettariat. Et puis il y a un single, Double Heart and Location, chez Mute en 80. Et deux des morceaux donc qu'on retrouve sur cet album de démo, dans leur version démo forcément. Et puis un album, The Bridge, avec Thomas Lear en 80. Et puis, il arrête la musique, Robert Randall, du jour au lendemain. Il meurt en 2000, cancer du poumon. Donc c'est un album de démo qui est sorti cet automne, qui laisse à penser, on va peut-être en reparler dans le peu de temps qui nous reste, qu'il s'avançait, Robert Randall, vers une musique peut-être plus mélodique, plus proche du format chanson, parce qu'il y a quand même des... ces autres morceaux sont quand même beaucoup plus industriels. Moi, j'étais très ému et très heureux et de découvrir ça aujourd'hui. On écoute à titre d'exemple « Before Closing Doors ». Robert Randall, alors des démos de 1980, ça a le son des démos de 1980, mais nos oreilles affinées, bien sûr, et celles de nos auditrices, auditeurs, auront perçu vers quoi Robert Randall allait. Christophe Comte, Robert Randall, et vous.
C'était votre choix, je pensais que vous alliez continuer à parler, non?
Oui, bah, je fais le tour.
Ce nom est revenu pour moi à la dernière, enfin pas la dernière émission, mais une émission qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, où on a parlé de Robert Randall, et c'est vrai que là, j'avais vu passer cette réédition, mais uniquement sur des mailing lists.
C'est inédit.
J'étais pas allé, ces inédits, ces démos inédits.
Exhumation.
J'étais pas allé les écouter, alors on les trouve sur les plateformes de streaming, si on veut, parce que j'ai pas trouvé le disque hein, pour le coup.
Nous non plus. Hein.
Ah si.
Et ce nom donc est revenu, et notamment cet album avec Thomas Slier, qui est un petit bijou, qui est avec cette pochette, moi qui m'a fait fantasmer très longtemps. Je me demandais ce que c'était. Et quand j'ai écouté ce disque, je trouve qu'il a quand même une empreinte, une singularité qu'on trouve assez peu dans les autres disques des gens dont vous avez cité de cette
période-là. Oui.
Après, là, sur les démos, moi, j'en ai un peu marre de la préhistoire de la New Wave là, ou de la musique électronique, parce qu'il faut vraiment prendre beaucoup sur soi pour apprécier les morceaux. Je trouve que le son, alors en soi, c'est pas mal, parce que le son à l'époque était déjà un peu comme ça. Mais on aurait peut-être aimé voir ces morceaux un peu plus étoffés, même si vous dites que Robert Antle n'avait pas du tout l'intention lui-même de s'ouvrir plus que ça. Donc c'est un document, on va dire. Je l'ai pas écouté 10 fois et ça m'a un petit peu agressé, même si il m'arrive d'écouter des choses agressives. Mais là, c'est trop inabouti pour
que je pouvais pas faire semblant que The Bridge soit sorti cette année pour le proposer comme disque de l'année.
Mais il va donc sortir peut-être à un moment.
Mais du coup, je me suis dit, bon, ça attire l'attention des gens sur ce nom-là, qui est quand même pas le plus connu. Mathilde Serrel.
Moi aussi, c'est vrai que je connaissais pas forcément. C'est l'année de ma naissance, Robert Antle. C'est pas pour oublier, mais ça m'a pas empêché.
C'est pas aujourd'hui non plus.
Non, 1980. Mais moi, j'ai eu le plaisir du document et aussi cette idée de voyager dans le temps. Moi, j'ai l'impression d'entendre le son de l'époque en train de se fabriquer. Et ça, je trouve que c'est presque
côté
une expérience.
Ouais, vraiment.
Oui, non, mais c'est presque une expérience visuelle. Après, il y a aussi quand même une synthèse qui est très intéressante, qui est faite dans ce titre de plusieurs connexions. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup Suicide, et notamment un titre à l'orgue qui s'appelle Sherry Sherry, qui a une sorte de dimension planante qu'on a retrouvé aussi chez Julie Cruz. Plus tard, moi, ce que j'aime, c'est finalement c'est presque l'underground de la New Wave, quoi. Ça va très loin dans la spécificité, et c'est ça que j'ai aimé, c'est tout ce travail de recherche et de connexion avec un peu les sous-bassements de cette culture-là dont on parle moins que les figures évidentes comme Human League ou New Order.
Alors, Human League, c'est pas seulement Don't You Want Me, mais
c'est
faut écouter Reproduction et Travelogue de Human League.
Il n'y a pas que surprises. Once in a Lifetime des Talking Heads.
Voilà. Philippe Azzouri,
c'est un disque que j'ai le plus recherché cette année. Alors, j'ai trouvé en vinyle.
Donc, vous l'avez trouvé.
Oui, à Londres. Pour répondre un peu à Christophe, en fait, c'est plus compliqué parce que les versions étoffées, notamment du morceau qui s'appelle Double Heart, elle existe. Elle est sortie sur Mute, d'ailleurs,
à
l'époque.
C'est un double album. C'est un
single.
Il y a On Location, l'autre morceau.
On Location. Et on a cette version un peu plus polissée, très pop. C'est aussi une particularité des Anglais de toute la sphère of Robin Crystal, c'est qu'il y a à la fois l'expérimentation, l'archive sonore, le bruit, le field recording, et quand même malgré tout, on est anglais, donc c'est-à-dire il y a un amour de la pop musique qui surgit à un moment donné inapproprié. Et en fait, ce que racontent les notes de pochette dans le vinyle, qui sont de JD Twitch, de Optimo, qui a sorti le disque, et qui est peut-être la personne aujourd'hui qui gère le mieux l'héritage Robin Crystal, Industrial Records, etc., c'est précisément qu'en fait, l'insatisfaction que Robert Antle avait lui-même à reproduire dans un studio qu'il appelait commercial, ce qu'il avait fait donc pour Mute, Double Heart et les 3-4 morceaux qu'on avait vus là, il avait préféré arrêter. C'est même peut-être la raison pour laquelle il s'est sabordé totalement. Et que pour lui, l'acmé du truc, c'est ses versions démo. Il dit là, c'est la satisfaction c'est sa satisfaction à lui. C'est s'éloigner au plus près de tout ce qui pourrait s'approcher de quelque chose de commercial.
Alors, on a envie de ça, on peut quand même regarder. Quand même,
Moi, j'adore ça. Je suis combien de sortes de fous qui font ça chez eux. Mais Double Heart, c'est magnifique, c'est un des plus beaux morceaux de cette période de 80. Que ce soit la version qui est très très belle, effectivement, en démo ici, ou la version commerciale sur Mute, et que vous pouvez trouver sur YouTube aussi. Enfin, il y a quelque chose de. Voilà, c'est peut-être un des plus beaux morceaux de cette période-là, de 1980.
Bon, mais c'est vrai que dans ces démos, il y a la version démo de ce Double Heart, et il y a On Location, et puis 5 autres. Il faut dire que sur cette plage, il y a quand même des choses assez différentes. Bon, il fallait faire un choix.
Ça avait plus. Il raconte aussi que ça
plus expérimental.
Ça avait aussi pris l'humidité. Il y a un travail. Ils ont galéré.
Il faut qu'on trouve les notes de pochette.
Non mais trouver le vinyle parce que la pochette est sublime à l'intérieur. Enfin ils ont fait un boulot. Il y a 2-3 photos de Rintel qu'on n'avait jamais vues. Il y a des notes de pochette vraiment incroyables. Enfin.
Ben on va chercher.
Un beau vinyle. Ça se.
2019. L'année de la recherche.
Different
Voices for You, Different Colors for Me, démo de 1980 de Robert Rintel chez Optimo Music. Et encore des cadeaux, me direz-vous. Mais oui, chaque soir avec Sarah Dion. D'abord, un rappel, Sarah, de la question du jeu d'hier au soir, avant de nous donner sa réponse.
La question était: quel célèbre poète a publié un portrait de Chagall dans son recueil 19 poèmes élastiques ? Et la réponse est Blaise Cendrars.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle Scala de Johan Bourgeois. Place à gagner pour samedi 29 décembre à 20h au Théâtre de la Criée à Marseille. La question, Sarah.
De quel théâtre parisien Johan Bourgeois a-t-il signé la première production au mois de septembre ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut bien sûr réécouter ces émissions, s'abonner également à son podcast. Demain à 19h, une dispute consacrée aux arts plastiques. Je serai en compagnie de Corinne Rondeau, Anaël Pija, Stéphane Coréard, à notre affiche Jean-Jacques Lequeux, bâtisseur de fantasmes, expo au Petit Palais, Renoir, père et fils, peinture et cinéma, c'est au musée d'Orsay, et puis une avant-garde polonaise, Katarina Kobro, Władysław Strzemiński au Centre Pompidou. Il y aura un coup de cœur signé Corinne Rondeau pour le livre « Les métamorphoses de l'argentique » de Denis Bria aux éditions Bec en l'air.